Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale bande dessinée. Ça va nous permettre de faire un retour sur le troisième volume des Centaur Chronicles. On avait parlé déjà des deux premiers volumes dans l'émission. Un comics à la française, un comics français, un French comics, signé au dessin par Marty Riedman et Eric Van Elsland, et au scénario par Jean-Michel Ferragati. Alors c'est ça, c'est publié par FG Prod, et on écoutera d'ailleurs Jean-Michel Ferragati, scénariste de cette bande dessinée, qui nous en dira un peu plus sur ce volume 3 des Centaur Chronicles. Nous aborderons également les Dogues Noirs de l'Empire, la Force Noire, qui est paru chez L'Armatan BD de Massir Tunkara au dessin et Christophe Cassio-Ori au scénario. Nous parlerons également de Mécanique Céleste de Merwan Chaban, publié chez Dargo. Nous parlerons aussi manga avec Demon Slayer de Koyoharu Gotoj, j'espère que je le dis bien, chez Panini Manga. Nous aborderons Batman vs Deathstroke de Christophe Priest et Carlos Pagulayan et Ed Benes également, ils sont trois. Et ça c'est chez Urban Comics. Et pour causer bande dessinée, je suis accompagné de ma bande à moi, et oui, le trio infernal que nous formons, tous les trois, puisque c'est un trio, hein, voilà, anime chaque semaine cette émission de Culture Prohibée, chaque semaine ou presque. Et là, nous sommes trois aujourd'hui, c'est la Dream Team. Enfin, j'adore le mot Dream Team parce que je sais que Thomas adore les anglicismes. Et justement, il y a Thomas Roland qui est là. Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site cultureaupoint.com, et puis parfois il fait entendre sa voix suave dans son émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens. Hi Thomas.
Ave GG, ave Damien et ave à toutes.
Et oui, il a dit, il a révélé le poteau rose. Il y a effectivement, et oui, ce fameux poteau de couleur rose, il y a effectivement Damien Demey qui est là. Damien Demey qui dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Hi everyone.
Je suis troublé car Damien a changé son intro habituel. Alors du coup, je vais laisser la parole à Damien pour qu'il nous parle de Mécanique Céleste de Merwan Chaban.
C'est une super BD qui déjà a un contexte assez intéressant, qui se déroule à Fontainebleau, donc juste à côté de Paris, qui est une forêt. Et ici, il lui donne des aspects de forêt tropicale. Et on comprend assez vite qu'on se balade dans un futur post-apocalyptique. Les héros sont attachants, surtout Aster et son ami Wallis. Et donc, l'histoire nous raconte ces deux personnages qui vivent dans cette cité de Pan, plus une sorte d'agglomération agricole, et qui du jour au lendemain va voir une autre agglomération assez militarisée venir et leur proposer un deal inacceptable qui, en leur laissant un dilemme. Soit ils se soumettent et ils leur donnent un certain nombre de productions et en échange, ben, ils seront protégés et n'auront plus rien à craindre. Soit, et c'est dessus que va partir l'ensemble de la BD, ils participent à Mécanisme Céleste. La Mécanisme Céleste, c'est un jeu que nous connaissons, mais je ne dirai pas lequel, où deux équipes vont s'affronter et va donc décider de ce qui se passera. C'est-à-dire que si Pan finit par gagner, finalement, c'est eux qui absorberont l'autre cité. Et donc, c'est une BD vraiment très belle, incroyablement passionnante. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai prêté à une amie, elle l'a lu d'une traite. Et je crois que les personnes que je connais la lisent tous d'une traite parce qu'on n'arrive pas à le lâcher une fois qu'on débute. Et c'est intéressant parce qu'il y a énormément à dire à travers l'atmosphère et l'univers qui développe, mais il se sent tellement sur les personnages qu'à la fin, on peut se sentir un peu frustré qu'il n'ait pas abordé d'autres détails. Mais l'histoire des personnages en elle-même nous comble... Ah, elle nous comble tellement. Voilà, donc c'est un ouvrage passionnant et si vous pouvez mettre la main dessus, mettez-la.
Damien, tu as aussi été comblé, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, par un manga qui s'appelle Demon Slayer, paru chez Panini Manga, qui est signé Koyoharu Gotoje. Je sais pas, franchement, je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas de maîtrise en japonais. Voilà, j'aimerais bien, mais je ne parle pas cette langue. Alors, Demon Slayer, déjà, c'est un titre qui fait envie, évidemment.
J'ai été moins conquis par Demon Slayer. Alors, Demon Slayer nous raconte l'histoire de deux jeunes héros, notamment le principal Tajiro Kamado et sa sœur Netsuko Kamado. Et donc, l'histoire commence par le massacre de sa famille par des démons, et ce dernier va tenter de sauver sa sœur qui se retrouve infectée par ce sang. Et afin de finalement pouvoir guérir sa sœur un jour, il va décider de suivre l'entraînement pour devenir un Demon Slayer. Et c'est un manga... qui a une grande popularité et c'est un truc qui me perturbe parce que je n'arrive pas à voir la raison de pourquoi il est aussi populaire. Donc ça, c'est la grande inconnue qui m'a poussé à choisir et à vous le présenter pour essayer qu'on essaie de comprendre finalement ensemble une des raisons de pourquoi il est autant populaire. Déjà, l'un des phénomènes qui s'est passé, c'est qu'il est sorti en 2016, mais en France, il n'a pas vraiment fonctionné, tandis qu'au Japon, il a vraiment bien fonctionné. Et il y a quelques temps... différents influenceurs et youtubeurs ont commencé à en parler et il y a eu une sorte d'effet de masse qui est venu relancer le projet. Panini Manga n'a pas loupé le coup, ils se sont lancés. Et quelque chose de quasiment improbable s'est passé, c'est que depuis des années, One Piece est au sommet des ventes en France et One Piece a été battu par les ventes de Demon Slayer. Alors, beaucoup d'amis à moi m'ont expliqué que c'était au fait que One Piece, durant un mois, c'était moins vendu et que Demon Slayer ait pu le dépasser, ce qui me semblait... que j'accepte, même si je suis réticent à citer, tout simplement parce qu'il existe des mangas qui ont énormément fonctionné ces dernières années, comme One Punch Man, Attack on Titans ou Sword Online, qui ont souvent été derrière One Piece, mais n'ont pas réussi à le dépasser. Et la dernière fois, si je ne m'abuse, que One Piece a été dépassé par un manga, c'était tout que le Death Note, donc on est au début des années 2000. Et donc, quand je me suis plongé dans ce manga, je me suis interrogé sur pourquoi il avait autant de succès. Je trouve que l'histoire des personnages est assez vite expédié, on n'a pas le temps de créer un lien, que la plupart des personnages qui ne sont présentés, moi personnellement, m'agacent plus qu'autre chose, qui sont présentés à la va-vite. Les démons sont intéressants, mais ne durent pas suffisamment longtemps à mes yeux pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se mette en place. Et la seule chose que je trouve d'unique à ce manga, c'est son héros, Tajiro, qui, à chaque fois qu'il tue un démon, un rapport avec lui qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il l'humanise, certes, il le tue, mais il ne perd pas de vue que tout démon était de base un humain. Et c'est assez intéressant parce que le manga met souvent en avant, dès le début, qu'on reproche à Tajiro qu'il n'arrête pas de pleurer, que c'est pas ce que devrait faire un homme, qu'un homme c'est comme ça, la vérité c'est ceci. Et c'est un personnage qui finalement fait ce qu'on lui dit pour finalement rentrer dans cette case virile. On lui dit qu'un vrai mec viril, ça défend sa sœur contre les démons, donc il devient un démon slayer. Et pourtant, face à un démon, il n'oublie pas qu'il a été humain et fait preuve toujours d'une certaine humanité en l'abattant. Et c'est ça qui rend ce personnage unique à mes yeux, c'est qu'à une ère où finalement on essaye de définir ce qu'est la force du personnage en lui-même, finalement, c'est d'être empathique envers autrui.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Ça me rappelle un peu cette idée de personnage qui pleure, cette idée de tueur empathique. Bon, là, c'est un pourfendeur de démons, en gros. Hein. Ça rappelle Crying Freeman de Kazuo Koike, hein, voilà, qui est une légende du manga, hein, voilà, qui est un grand classique. Peut-être que ce Demon Slayer aussi s'adresse à un public plus jeune, et puis peut-être aussi que son succès est dû... C'est un shonen, si je ne m'abuse, hein, et son succès est dû à l'adaptation, parce que je sais qu'il y a une série animée, il y a une série d'anime qui est en cours, je crois.
Hein. Oui, tout à fait.
Et c'est peut-être ça qui a fait que le succès est venu un peu tardivement en France. J'avais eu 3 ans pour que ça prenne, c'est ce que tu disais.
Oui, ça a toujours pris du temps pour venir, et ça a eu, ça a eu un croisement d'influence entre finalement... Oui, pour moi, c'est la jeunesse qui s'est attardée, vu que c'est pour moi surtout les youtubeurs et les influenceurs qui ont lancé ça. Ça a permis un pic, mais... Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, un pic, ça se fait sur les premiers volumes. Là, on en est au 5e. Bon, pour un manga, vu qu'il y a moins de pages et que ça disparaît, ça prend plus de temps, mais ça continue à avoir des ventes élevées. One Piece est repassé devant, mais ça continue à bien se vendre. Et pour moi, je me suis dit, si on a un effet comme ça d'appel et que ça commence à se vendre avec les premiers tomes, ça va vite s'essouffler, vu que finalement, il n'y a rien qui transpire à travers. Je n'ai pas encore regardé l'animé pour... comparé, mais on m'a dit que les deux étaient de la même qualité.
Damien, toi qui es aussi un fan de comics, ne me dis pas que tu es venu dans une émission BD sans un comics sous le bras.
J'avoue, je suis venu avec un comics qui m'a fait du pied durant longtemps, et pour la simple et bonne raison qu'il met face à face deux héros ou anti-héros que j'adore, qui sont Batman et Deathstroke. Donc au scénario, on retrouve l'actuel scénariste de Deathstroke, Christophe Priest. Et ce qui est triste, c'est qu'on ne retrouve pas l'auteur actuel de Batman, qui est Tom King et que j'adore, mais dont je vous reparlerai sûrement très bientôt. Et donc Christophe Priest, depuis Deathstroke Rebirth, fait un super arc autour de Deathstroke et de ses liens avec sa famille, qui a une relation absolument pourri, chacun essaye de s'entretuer, de s'auto-protéger avant d'à nouveau s'entretuer. Ils se sont au moins tués au cours de leur existence tous ensemble une fois, mais vu qu'on est dans les comics, ils reviennent. Je sais pas si c'est une bonne chose pour leur famille après tout. Et donc, ce numéro est assez particulier car il est hors. Ça aussi, c'est une des questions qui m'a perturbé, parce qu'en ce moment, je suis perturbé par beaucoup de questions. Serait-ce le début de l'année? Je ne le sais pas. Mais il est hors des Deathstroke, alors qu'il aurait pu être placé dans les comics Deathstroke qui sortaient en France. Donc, que nous raconte l'histoire? Eh bien, suite à une enquête, Batman va tomber sur des documents qui lui révèle un test d'ADN qui indique que Damian Wayne, son dernier fils et le dernier Robin, n'est en fait pas son fils et que son ADN serait celui de Deathstroke. Ce qui va faire que Batman va commencer à voir Deathstroke pour plus ou moins, de manière assez colérique, commencer à se plaindre du lien qu'il y a avec l'ADN et tout. Donc Batman, dans sa finesse, va pas appeler Deathstroke, il va aller l'endroit où Deathstroke travaille, va lui pourrir son coup, Deathstroke va vouloir se venger. Et du coup, petit à petit, on va avoir une confrontation qui va se faire entre Batman et Deathstroke, avec un Batman qui dit à Deathstroke qu'il n'aura plus aucune chance de faire son travail, et Deathstroke qui, lui, veut juste être laissé tranquille parce que de cette affaire, il n'en a rien à faire. Il veut, même si Damian est vraiment son fils, ce dont il doute, il n'en a rien à faire, il veut avoir aucun rapport avec, mais c'est pas ce que veut Batman. Batman veut qu'il réponde et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est intéressant parce qu'au final, on se rend compte que ces deux personnages qui sont un peu les facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que du côté de Batman, on retrouve la figure paternelle qu'incarne Alfred. Du côté de Deathstroke, on a Wintergreen. Et ce qui est assez drôle, c'est que Alfred et Wintergreen se connaissent. Ils sont tous les deux anglais et durant très longtemps, ils ont parié sur les matchs de foot. Et ils se retrouvent très souvent pour parler de leur protégé. Et assez souvent, ils critiquent, ce qui est assez drôle. On a aussi dans les cases mis en parallèle une interview de Robin, à ce moment-là Dick Grayson, qui parle, qui explique son rapport à Batman, qui il est, et en face le fils de de Deathrox, Slade Wilson, donc Jericho ou Joseph Wilson. Et en face, on a aussi les rapports qu'ils ont avec les personnes qui ont donné des progénitures avec qui ça se passe très mal. Du côté de Batman, c'est du coup Talia al Ghul qui est jamais... qui n'est pas une personne très tendre et qui est très dure de trouver. Et en face, c'est Adeline Wilson, qui est la femme de Deathstroke, qui essaye depuis des années d'essayer de l'abattre parce qu'elle lui repose plein de choses, notamment des choses justifiées, d'autres un peu moins. En justifié, qu'il est couché avec une autre femme et qu'il est tenté de protéger du coup sa fille adoptive. Et du coup, ça a conduit à la mort de leur fils. Une famille super joyeuse. Et donc, un des trucs qui est aussi intéressant et qui fait partie des questions que je me pose, il y a cette Adeline Wilson qui, en fait, à l'origine s'appelait Adeline Kane, donc qui a travaillé dans l'armée, qui a été l'instructrice de Slade Wilson avant qu'ils finissent ensemble. Et en fait, Adeline Kane, qui travaille dans l'armée, fait beaucoup penser notamment à Kate Kane, la cousine de Batman, et à l'ensemble des Kane, qui est en fait une des familles riches de Gotham qui a travaillé dans tout ce qui est armurerie, dans tout ce qui est du paramilitaire. Et en fait, je me suis toujours posé la question si Adeline Kane était reliée au Kane, parce que la Kane la plus connue, c'est Martha Kane, qui est devenue Martha Wayne, ce qui voudrait dire que Slade Wilson n'est autre que le cousin de Batman, et vu la relation qu'ils ont, ça pourrirait encore plus la vie de Deathstroke. Et donc, nous retrouvons dans cette confrontation de titans où chacun des deux prenne autant les techniques que l'autre, arrive constamment à dépasser l'autre, s'enquiquine tous les deux de façon ultra violente, gore, avec des retournements de situation assez spectaculaires, au point que parmi les nombreux coups qui sont dans les pattes, Batman va détruire avec un rocket l'avion que Deathstroke utilisait pour se déplacer, et que Deathstroke va se venger en liquidant tous les fonds de Wayne. Donc c'est à la fois un comics avec beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat, il y a un côté assez espionnage où chacun des deux essaye de battre en fond la stratégie de l'autre, avec une conclusion mystérieuse et enivrante. Just you and me. Come on!
Écoutez Culture Prohibée spéciale bande dessinée.
Not so fast, Deathstroke. He's my kill.
On va complètement changer de style parce que nous allons aussi aller au Togo et au Cameroun qui furent il y a un peu plus d'un siècle des colonies allemandes. Donc nous allons avec les Dogues Noirs de l'Empire au Togo et au Cameroun. Donc une bande dessinée scénarisée par Christophe Cassio-Horry qui est aussi le directeur de collection de l'Armatan BD et qui est mise en image par Massira Tunkara, un auteur de bande dessinée né à Kenyeba au Mali en 79. À quelques mots sur Massira Tunkara, qui à 12 ans, il réalise déjà ses premières planches de BD en créant avec un de ses copains des séries Lucky Luke, mais à leur façon. 8 ans plus tard, aux alentours de l'an 2000, alors que la fin du monde se profilait déjà, il signe sa première BD intitulée Yuna, la planète, une histoire de SF de 60 pages en noir et blanc et en couleur. Malgré un refus des éditions Dupuis, Massiré Tunkara se lance dans l'aventure d'une nouvelle BD, Alpha, l'ombre de la cité. Par la suite, en février 2002, il suit des cours d'initiation aux techniques de la bande dessinée organisée par le Centre culturel français de Bamako et l'association On a marché sur la bulle d'Amiens, en France. Je précise parce que c'était précisé entre parenthèses dans mon texte.
En Picardie.
Il rencontre des auteurs comme Nicolas Dumonteuil et Barli Barouti avant d'autres stages d'initiation aux techniques de coloriage BD animées par Jean-Denis Pendant à Amiens. Il a l'occasion de participer à plusieurs fois à des festivals de BD, à Amiens, à Lyon, à l'exposition Bulle d'Afrique à Bruxelles, de signer en 2003 une illustration sur la célèbre cathédrale Notre-Dame d'Amiens dans le cadre du projet Couleurs du Monde. Entre-temps, il fonde avec deux autres collègues, Julien et Papa, le club BDB qui finira par devenir l'atelier BDB. Il illustre plusieurs albums, dont des planches pour Amnesty International, travaille par intermittence comme dessin animé pour une boîte malienne, et participe à des albums collectifs comme Illustration universelle des droits de l'homme chez Glénat ou encore Sommet d'Afrique, déjà chez l'Armatan BD. L'histoire des dogues noirs de l'Empire se situe au tout début de la Première Guerre mondiale. La France et l'Allemagne exportent le conflit sur le sol africain et recrutent des soldats parmi les indigènes. Bakary et Babacar sont cousins, mais habitent chacun d'un côté de la rivière qui sert de frontière entre les colonies allemandes et françaises au Togoland, qui est maintenant le Togo, bien sûr, on l'aura deviné. Les deux jeunes hommes vont s'engager et vont donc combattre chacun dans un camp ennemi l'un à l'autre. On pense bien évidemment à la conférence de Berlin, durant laquelle différentes nations européennes se sont partagées l'Afrique en créant des frontières artificielles au début du bon sens sans jamais tenir compte des réalités du terrain. Ainsi, par exemple, on peut trouver des Yoruba aussi bien au Nigeria qu'au Bénin, ce qui est quand même une aberration, l'ethnie se retrouvant à cheval sur ces deux pays. Les fameux dogues du titre sont des soldats africains relégués à une simple main-d'œuvre dénuée de toute humanité. Hein. La BD met bien tout cela en évidence. La façon dont sont traités les Africains par les colons, mais aussi le fait qu'ils se retrouvent dans une guerre qui ne les concerne pas, souvent contre leur gré. Le dessin de Massiré Tunkara est très beau, réaliste. Les scènes bénéficient d'un beau découpage quasi cinématographique, avec une grande variété de valeurs de plan. Le tout est assez dynamique, avec des bonnes scènes de combat bien décrites. Et dans sa façon de décrire un conflit qui s'exporte et qui apporte aussi la guerre dans une même famille, les dogues noirs de l'Empire montrent l'absurdité de la guerre et les ravages de la colonisation. Une fois de plus, sa collection L'Armatan BD prouve sa tendance à l'excellence et l'éclectisme, mais aussi à travers des BD qui sont tour à tour comiques, dramatiques, de guerre comme ici, elle décrit des situations sociales et politiques actuelles ou historiques du continent africain avec talent et d'une façon ludique.
Nous allons conclure cette émission, enfin on a encore un petit peu de temps devant nous, la chronique d'une BD qu'on aime bien, un comics à la française, une expérience assez originale en fait, qui a été entamée depuis maintenant 2-3 ans par Jean-Michel Ferragati au scénario et son équipe au dessin, Marty, Rick Van Elsland, Riedman, Jean-Marie Minguez en fait, qui est une idée assez sympathique, c'est-à-dire qu'on reprend les personnages d'un éditeur disparu, hein. Faut savoir que Jean-Michel Ferragati, c'est l'auteur de l'histoire des super-héros L'âge d'or 1939-1961, qui est paru chez Neo-Office Éditions. C'est un spécialiste du Golden Age. Et lui, il avait connaissance de cet éditeur qui s'appelle Centaur Publications, Centaur Comics, hein, qui au départ est un éditeur qui publie des pulps et qui va se lancer dans les comics et qui va révéler. Ça va durer très peu de temps, hein, ça démarre voilà, au mi-temps des années 30 et ça se termine habitant des années 40, quoi. Voilà, c'est un éditeur qui a une vie très courte, mais qui va lancer d'incroyables dessinateurs, par exemple Bill Everett, hein, Bill Everett, le créateur de Namor ou Submarine, ça dépend comment on l'appelle, et qui va mettre en place des personnages qui vont, par exemple, comme Arrow, qui sera un peu modifié plus tard. C'est pas Green Arrow, hein, c'est un autre personnage, mais qui inspirera, donc hein, on devine qui. Jean-Michel Ferragati a une idée. Il décide de situer l'action de son histoire dans les années fin des années 50, en 59, quand démarre la série. À l'époque aussi de la mise en place de la censure au niveau des comics, hein, avec le Comics Code Authority, l'interdiction de lecture aux mineurs et tout ça. Et il décide de mettre en place, à ce moment-là, son histoire, son intrigue. Et il reprend donc des personnages de l'éditeur et il les illustre, il les met en scène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il alterne avec des épisodes d'époque qui sont, on va dire, remasterisés, quoi, refaits, remis au goût du jour, restaurés. Et il alterne et il arrive à créer un univers cohérent. Et là, il en est au troisième tome de cette uchronie, hein, parce que, évidemment, ça se passe dans des époques qu'on connaît, sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité. Et si cette BD, au départ, pouvait faire penser aux Watchmen, elle se démarque de plus en plus de l'univers des Watchmen pour avoir sa propre identité. Alors, on va parler de ce comics à la française tout de suite, avec donc Jean-Michel Ferragatti, donc scénariste de Centaur Chronicles.
Le concept de Centaur Chronicles, c'est la reprise de personnages américains de super-héros libres de droit. L'idée est de raconter des aventures nouvelles de ces personnages qui se situent à la fin des années 50. Et pour ce faire, nous avons une équipe d'artistes modernes, scénaristes, dessinateurs, coloristes, qui donc raconte des nouveaux épisodes, et pour permettre aux lecteurs d'avoir une bonne idée de qui sont ces personnages, nous rééditons également des épisodes originaux qui datent des années 30 et 40, dont la couleur est entièrement restaurée par un restaurateur qui s'appelle Rillman. Et voilà pour le concept. Pour le résumé des épisodes précédents, le premier tome s'appelle La Renaissance et nous permet de découvrir qui sont ces personnages et quelles sont leurs situations au moment où l'intrigue débute, et un petit peu aussi leur passé. Le deuxième épisode s'appelle Les Origines, le deuxième volume. Et là, on va se focaliser en effet sur les origines de ces personnages, quels sont leurs points communs, pourquoi ont-ils une histoire passée commune, pourquoi certains ont des super-pouvoirs, pourquoi pas d'autres, et également replonger dans l'histoire du comics, l'histoire de, aussi des États-Unis.
Ben justement, tu viens de l'aborder à l'instant, tu parlais d'histoire. Chronicles, ou Centaur Chronicles, met en avant des personnages du Golden Age, qui sont des pionniers, on va dire. Hein. La plupart sont apparus à la même époque que Superman, je simplifie un peu, mais c'est à cette époque-là. Toi, tu viens de le dire, tu es attaché à l'histoire. C'est pas innocent. Enfin, je suppose que le travail d'historien, je rappelle que tu avais signé les publications américaines en France, qui était un vrai travail de forçat, hein, un travail d'historien des comics. Tu pouvais pas faire autrement que faire une BD qui rentre en collusion avec l'histoire, j'ai envie de dire.
Oui, alors je ne sais pas si je ne pouvais pas faire autrement. En tout cas, ça s'est imposé assez rapidement parce que l'histoire à la fois fictive mais également réelle des personnages et de leurs publications était en effet au cœur de notre projet. Et pour plein de raisons, dont l'une d'entre elles est que au travers de ces épisodes originaux, les créateurs d'origine ont en fait projeté leur conception du futur. Futur proche, futur un peu plus éloigné, futur très lointain qui lui malheureusement est assez peu exploitable. Mais donc on était obligé, enfin je me sentais plus exactement obligé, de raccorder cette vision de leur futur avec les épisodes qu'on appelle modernes, donc qui se passent à la fin des années 50. Et puis également l'histoire globale, quoi. Donc en effet, l'histoire est devenue d'une certaine manière au cœur de nos préoccupations à travers ces différentes thématiques.
D'ailleurs, il y a aussi une tradition, j'ai envie de dire, dans Centaur Chronicles, qui est très agréable, c'est-à-dire qu'il y a des petits points historiques, alors sous forme de bio de Bill Everett, par exemple, enfin de bio de dessinateur, de scénariste, ou des rappels d'éléments historiques, qui sont entre les épisodes, qui sont situés entre les épisodes. Cette forme-là s'est imposée assez rapidement pour toi. C'était clair de devoir procéder comme ça.
Oui, alors au début, on a vraiment voulu procéder comme ça pour mettre en avant les créateurs des personnages originaux. Nous, on voulait vraiment, je voulais vraiment, mais les artistes étaient complètement d'accord avec moi, mettre en avant ces créations originales en disant « c'est pas nos personnages, on ne voulait pas se les réapproprier sans expliquer qu'on n'était pas les créateurs, hein, qu'on était juste des héritiers ». Des repreneurs, des passeurs plutôt, hein, plutôt que repreneurs, je pense que passeur est un bon terme. Et du coup, on est parti du principe que les personnages étant assez peu connus, leurs créateurs sont un peu plus connus, mais il y avait sans doute des gens qui allaient découvrir à la fois les personnages et les créateurs au travers de notre œuvre. Donc ça s'est imposé très rapidement. Et donc dans les deux premiers tomes, on a quasiment travaillé qu'avec en effet des biographies de créateurs et un peu d'histoire éditoriale des personnages. Dans celui-là, et c'est peut-être notamment ce passage rédactionnel auquel tu penses, on introduit aussi de la thématique, c'est-à-dire pourquoi à notre sens, et moi principalement en tant que scénariste et celui qui choisit les épisodes, pourquoi il y a certains points des œuvres, que ce soit dans Centaure ou hors Centaure, de certains créateurs qui se sont imposés, je dirais, dans l'histoire. Et notamment Bill Everett a un rapport très particulier à la guerre et à la guerre en Europe.
Effectivement, je voulais aborder aussi cette thématique qui est dans le livre. Alors, il y a quelque chose aussi, moi, qui me questionne aussi à chaque fois en lisant les trois volumes de Centaur Chronicles, c'est la manière dont tu travailles le scénario avec tes dessinateurs. Est-ce que tu travailles aussi, est-ce que toi, tu te fais un petit storyboard, des choses comme ça parce qu'il y a cet enchaînement qui est très fluide quand même entre les anciens et les nouveaux épisodes, de plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure des volumes, je trouve.
Alors, pour répondre à ta première question, non, moi, je ne fais pas de storyboard. Après, mon écriture, les artistes m'ont dit que c'est une écriture complexe. Et en fait, j'ai vécu un petit peu l'inverse, puisque même s'il n'est pas encore sorti, il y a une sorte de fascicule compagnon au volume 3, qui est un crossover entre Le Garde républicain, un univers de Thierry Mornay, Hexagone Comics et Centaur Chronicles. Et sur ce petit compagnon, qui est une bande dessinée de 44 pages, j'ai travaillé avec un artiste d'Hexagone, qui est un artiste mexicain. Et donc, j'ai fait un premier pitch, validé par Jean-Marc Officier, qui est l'éditeur d'Hexagone Comics. Après, j'ai fait un scénario en français, que j'ai traduit en anglais. Et quand je l'ai envoyé, Jean-Marc m'a dit « Oulala, il ne va rien comprendre ». Il faut être beaucoup plus synthétique. Et donc, il a retravaillé mon scénario de manière à avoir, je dirais, un scénario à la Marvel Way. Une page, 5 à 6 actions maximum, des descriptions d'actions de 2-3 lignes maximum, pour laisser de la latitude au dessinateur. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout mon style à moi. Donc, non, je ne fais pas de storyboard. Après, j'essaye de mettre le maximum d'informations dans mon scénario, que ce soit des informations générales pour que l'auteur comprenne bien d'un coup pourquoi ce personnage fait ça, pourquoi est-ce qu'on est à tel endroit. Et puis après, j'essaye aussi de donner quand même des indications, parce que j'ai une idée en tête hein, de comment pourrait être l'action, je dirais, dessinée. Et donc, je donne des indications avec des termes tout à fait classiques de scénariste, contre-plongée, travelling, plan américain, ambiance, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, expression des visages. Donc voilà, j'essaye de donner beaucoup de choses, qui fait des scénarios très denses, puisque pour une 50aine de pages, j'ai des scénarios qui vont d'une 12aine à une 20aine de pages, ce qui est quand même assez lourd. Voilà, donc ça c'est pour ta première question, et bien entendu on échange avec les artistes, notamment avec Martin, mon dessinateur, sur est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'en termes de storytelling, c'est trop compliqué, c'est trop décompressé, donc on travaille beaucoup là-dessus.
Jean-Michel Ferragatti au micro de Culture Prohibée.
Sur l'intégration, c'est en effet des commentaires quasi unanimes sur le troisième volume, puisqu'il a, il a déjà été en partie distribué aux contributeurs Ulule. Et donc beaucoup de gens ont fait un retour en disant c'est incroyable, dans le troisième, on a l'impression que les épisodes originaux ont été écrits en même temps que les épisodes modernes. C'est-à-dire qu'il y a une continuité quasi parfaite, ou en tout cas extrêmement forte. Alors ça me fait très plaisir pour deux raisons, parce que le troisième volume, je le trouve un peu plus faible scénaristiquement que les deux autres. Et donc j'étais un peu craintif par rapport au retour des lecteurs. Et puis deuxièmement, bah, ça montre que l'idée qu'on avait, au fur et à mesure de sa construction, elle est validée par le lecteur.
Bah tu vois, donc il n'y a pas que moi qui pensais ça, puisque tu as eu des... ça ne sera pas dans l'interview diffusée, mais je t'avais renvoyé un petit mail pour te dire ce que j'en pensais, et tu vois, en fin de compte, tes lecteurs ont eu le même ressenti, quoi. Voilà.
Ah bah c'est unanime, c'est-à-dire que vraiment, tous les commentaires que j'ai eus mettent en avant cette partie-là en disant, c'est incroyable, vraiment, on a l'impression que les épisodes ont été écrits de manière contemporaine, c'est-à-dire que l'imbrication est telle qu'on n'a pas l'impression que tu as pris des trucs au hasard, en plus un peu poussiéreux, je dirais accessoires. Non, on a l'impression, voilà. Donc c'est vrai que c'est une super surprise pour moi, parce que j'avais quand même un peu peur que le troisième tome soit vu comme un peu moins, je dirais, percutant que le deuxième, notamment.
Dans ce volume 3, encore plus que dans le précédent volume, il y a, je trouve, les Centaur Chronicles deviennent de plus en plus sombres. Là, il y a des méchants quand même particulièrement sombres dans celui-ci. Alors, c'est une volonté de ta part. Et puis, je voulais savoir aussi, est-ce que... graphiquement, je trouve que c'est intéressant, du coup, parce qu'il y a un contraste entre le côté presque, hein, je dis bien, ligne claire de Marty et le côté vraiment de plus en plus sombre de l'histoire.
Alors, c'était pas nécessairement une volonté. Ce qui était certain, c'est que sur ce troisième volume, on voulait vraiment se centrer sur les adversaires pour plusieurs raisons. Une première raison qui est assez connue de Stan Lee, qui est de dire plus l'adversaire est est fort, plus l'adversaire est puissant, plus l'adversaire est notable, plus le personnage héroïque est, je dirais, par ricochet important. Donc on voulait vraiment avoir des vilains, des méchants qui soient extrêmement forts. Et puis, moi également, je voulais caractériser ces méchants de manière à ce qu'on n'ait pas certains vilains de super-héros classiques qui, du jour au lendemain, veulent devenir maître du monde ou veulent, je dirais, sans vraiment de cheminement, se lancent dans la carrière de super-vilain. Donc, tu as raison, du coup, ça donne un côté un peu plus sombre, parce que là, on rentre réellement, à mon sens, dans les motivations et des motivations profondes de ces personnages de super-vilains. Et on explique pourquoi ils ont pendant des décennies poursuivi les super-héros de leur vindicte avec une certaine manière, une volonté de prise de pouvoir, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on sent que ces personnages, ils ne sont pas là uniquement pour le pouvoir, l'argent, je dirais. Ils sont vraiment là aussi pour des raisons psychologiques extrêmement fortes. Donc ça, c'est pour répondre en partie à ta question. Et alors, du coup, bah, c'est imposé un peu ce côté un peu sombre, en effet, avec, je dirais, un nadir, c'est-à-dire qu'on arrive un peu sur quand même le pire, on va dire. Et puis, le quatrième volume, sans le déflorer, je pense, va être beaucoup plus lumineux, parce que le chemin des héros va repartir vers quelque chose de plus glorieux, lumineux, et une fin plutôt heureuse. Mais il fallait passer par ce moment dur, ce moment un peu noir, où on se rend compte aussi que les motivations des vilains, elles ne sont pas totalement égoïstes. C'est-à-dire que derrière, ils ont un passé qui fait qu'ils se battent aussi d'une certaine manière pour quelque chose.
Dans chaque volume, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent.
Oui. Hein.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les personnages qui apparaissent dans ce volume ? Et puis, moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est comment tu les choisis, ces personnages ? Parce qu'il y en a quand même certains qui sont tombés dans l'oubli. Et on se demande pourquoi, parce qu'ils sont assez passionnants. Moi, je pense que The Magician from Mars, par exemple, qui en plus, la particularité est un personnage féminin. Enfin, c'est quelque chose... je ne m'explique pas vraiment parce que je trouve la BD très efficace, très bien dessinée, très intéressante.
Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, on les choisit pour l'intérêt éditorial, c'est-à-dire est-ce qu'en les réinjectant, ils vont apporter quelque chose à l'histoire. Je les choisis également en fonction de leur histoire éditoriale et de ce qu'ils représentent. Donc ça, tu vois, c'est un deuxième choix, un deuxième axe, je dirais, sur lequel je vais revenir. Et puis dernièrement, on en choisit aussi certains, je dirais, par clin d'œil, par amour, ils sont moins importants, mais néanmoins, le fait de les remettre un peu au goût du jour est quelque chose qui est intéressant et qui nous permet aussi d'étoffer, je dirais, notre galerie de caractères, enfin de personnages secondaires, de choses comme ça. Alors, Magician from Mars, c'est très intéressant ce que tu dis. On l'a pris pour plusieurs raisons, parce que d'abord, elle est très liée à l'origine des personnages. On ne va pas spoiler les gens, mais c'est quand même important, je dirais, première chose. Deuxièmement, parce que bah, pour moi, c'était important de remettre en avant un personnage qui est la première super-héroïne de l'histoire des comic books. C'est vraiment le premier personnage féminin qui a des pouvoirs. Il n'a pas été retenu, je dirais, par les historiens sous ce format-là, parce que elle a pas réellement de costume, en tout cas, elle n'a pas de masque. Donc, le plus souvent, les historiens expliquent que la première héroïne de l'histoire des comic books, c'est Woman in Red, qui est une détective, qui est une sorte de grande robe avec un masque rouge, quoi. Mais elle n'a pas de pouvoir, elle. Donc, pour moi, Magician from Mars, c'est vraiment la première super-héroïne. Et en plus, elle a une thématique extrêmement forte, à la fois en termes d'origine, donc on ne reviendra pas dessus, mais de thématique. C'est un personnage extrêmement ancré dans la science-fiction, mais également avec des pouvoirs très importants. Et donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nécessaire de remettre un focus sur Magician from Mars. Et également, elle n'a eu que 5 épisodes qui lui ont été consacrés dans l'histoire, pour l'instant, des comic books, mais ils ont une certaine continuité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des épisodes où on saute d'une histoire à l'autre sans tenir compte du passé, etc. On sentait une volonté feuilletonnante de John Junta, qui est à la fois le scénariste et le dessinateur et le créateur de Medicine from Mars. Voilà, puis c'est un personnage qui a un look avec ce costume un peu de général qu'on voit dans le cinquième épisode et qu'on réédite. C'est aussi un personnage qui, pour l'époque, est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'elle explique à son amoureux que c'est à elle d'aller se battre, parce qu'en gros, c'est elle qui est la plus forte, quoi. Donc elle lui dit un peu, reste dans tes cuisines, quoi, reste au foyer, d'une certaine manière. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant scénaristiquement, qui nous permet de caractériser et d'avoir une fort profil psychologique du personnage.
Écoutez Jean-Michel Ferragati, scénariste de Centaur Chronicle, volume 3, l'Université, édité par FG Prod, au micro de Culture Pro.
Après, il y en a certains qu'on réutilise parce que la coïncidence est tellement énorme je suis obligé de les mettre dedans. Donc, je parle de ce personnage qui s'appelle Scarlett Ace, qui est un aviateur de la Première Guerre mondiale et qui est un décalque, je dirais, du Baron Rouge, mais du bon côté, parce que c'est un Américain, qui n'a connu qu'un seul épisode par un artiste assez connu, hein, Bob Lubbers, qui reprendra des comic strips, dont un qui sera son comic strip, donc il créera un comic strip, qui à l'époque, dans les années 50, est toujours le pinacle de la carrière d'un illustrateur. Et Scarlett Ace, je le réutilise, parce que d'abord, il est malgré tout intéressant, et parce que dans son épisode, il y a des coïncidences extraordinaires avec d'autres personnages, des personnages d'autres séries, notamment des personnages de la série Amazing Man. Et là, encore une fois, on ne va pas déflorer pour le lecteur, mais pour moi, il était évident qu'il y avait des liens entre cette série, cet épisode, même, je dirais, Scarlett Ace, et une autre série qui est Amazing Man. Donc pour moi, c'est vraiment le hasard heureux qui permet de se dire, et qui permet, comme tu dis, d'avoir une fluidité entre les épisodes, et donc de se dire, c'est évident, on parle de la même chose.
Alors... On a échangé sur les trois volumes parus hein, dans l'émission et puis même sur notre blog hein, culture-prohibé.blogspot.fr. Y a beaucoup de choses que tu nous avais dit au lancement de la série. Aujourd'hui, on est presque au bout du premier story arc hein, qui doit comporter quatre volumes. Quel regard tu portes sur cette aventure? Et puis, est-ce qu'elle est conforme à l'idée que tu t'en faisais au départ puisque tu nous avais parlé d'autres story arcs, de séries TV, enfin de choses comme ça. Voilà.
Alors, je porte un regard émerveillé, si tu veux, parce que malgré tout, comme tu le dis, on va arriver au bout. Hein. Le scénario du quatrième volume a été finalisé en fin d'année dernière. Il a été envoyé à Marty, qui commence déjà à travailler dessus. Jean-Marie Minguez, notre cover artiste, est en train de travailler sur la cover, qui sera une wraparound cover, c'est-à-dire une cover qui, lorsqu'on ouvrira le livre en deux, fera une illustration complète. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se finaliser. Donc on peut dire que le quatrième volume sortira très probablement à la fin de cette année pour Saint-Malo 2020. Et donc émerveillé parce que même si j'ai été persuadé d'avoir une bonne idée, même si j'étais persuadé d'avoir une bonne équipe, en sachant que c'est la troisième quand même, donc tu vois, il y a eu des ratés, mais il y a eu des à-coups au départ. Malgré tout, les gens qui auraient parié sur cette aventure en disant en 5 ans, ils vont sortir 4 volumes de 100 pages, soit 400 pages, avec la moitié d'inédites et la moitié de restaurées, et dans un univers où le lectorat va adhérer. On a, je dirais pour l'instant, plusieurs centaines de lecteurs réguliers. Malgré tout l'enthousiasme qu'on avait, je suis pas sûr qu'on aurait parié. Ce genre d'aventure, c'est quand même très compliqué d'aller au bout. Donc je jette un regard émerveillé sur cette partie-là. Et un regard aussi un peu étonné, tu as raison, c'est de dire que quasiment tout ce qu'on avait imaginé au départ se réalise. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de divergence entre les bases, le plot du premier story arc en 4 volumes et là où on atterrit. Vraiment des trucs à la marge très très petits. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement satisfaisant de se dire que les 400 pages qu'on avait prévues, elles vont quasiment être conformes à 100% à l'idée qu'on en avait au départ. C'est pas donné parce que parfois tu peux avoir des incidents de parcours, des choses modifiées. Donc ça veut dire que malgré tout, le travail, je dirais, de conception de la série avait été extrêmement bien mené avec les artistes et moi-même. Donc ça, c'est super. Puis dernière chose, on a beaucoup de chance parce que il y a pas mal d'artistes qui se sont penchés sur notre projet, qui nous ont offert des visuels assez intéressants et qui vont nous permettre de capitaliser sur un deuxième story arc, en effet, un troisième story arc, et également des projets de spin-off qu'on avait en tête, mais dont certains se sont rajoutés. On a beaucoup de projets en ce moment, petits ou grands, sur beaucoup de personnages, parce que il y a des auteurs, dont certains assez connus, qui se sont vraiment retrouvés dans certains personnages un peu annexes, qu'on a ressortis un peu, je dirais, pour faire des clins d'œil, et qui, en regardant ces personnages, ont dit « Non, tant ça m'intéresse vachement comme concept, je me retrouve dans ce personnage et je voudrais faire ce que tu as fait, c'est-à-dire le prendre et lui redonner une seconde vie. » Donc là aussi, c'est quelque chose, au final, extrêmement valorisant, gratifiant pour tout le monde, l'équipe d'origine et également tous les gens qui sont greffés dessus, de se dire que cet univers est en train de prospérer de manière organique, c'est intéressant. Ouais.
Est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices et auditeurs comment se procuraient donc les 3 volumes de Centaur Chronicles ?
Alors, il faut aller sur le site centaurchronicles.com. Centaur, C-E-N-T-A-U-R, Chronicles, C-H-R-N-O. N-I-C-L-E-S, donc les chroniques de Centaure en anglais, .com, et on a un onglet acheter. On peut acheter des volumes un par un, on peut acheter des volumes par deux, le premier et le deuxième tome, on peut acheter des volumes par trois. Et donc, quand on a des achats groupés, on a des bonus, que ça soit sous forme d'un fascicule qui s'appelle Les Origines, sous forme de sketchbook. On peut aller également dans certaines boutiques physiques. Les auditrices et auditeurs qui habitent à Asnières peuvent aller à la Casabule. Les auditeurs et auditrices qui sont parisiens peuvent aller à Central Comics. Et puis également en ligne chez Attilan Comics, qui est une boutique avec qui on a beaucoup de partenariats. Et puis nous sommes présents dans les festivals tout au long de l'année. Nous étions à Angoulême le week-end dernier. Nous serons à Igny les 7 et 8 mars, nous serons à Puteaux les 13 et 14 juin, nous serons à Made in Comics, dont j'ai oublié les dates, nous serons à Saint-Malo, nous serons à Blois, mais ça c'est plutôt en fin d'année. Et l'avantage d'aller en festival, bah, c'est qu'on peut rencontrer les auteurs, le scénariste, mais également les artistes. Donc on peut discuter avec tout le monde, et puis les artistes font des dédicaces qui sont reprises sur nos réseaux sociaux, Facebook avec la page projet Centaure Chronicles, Instagram pareil, Twitter, je crois que c'est Centaure Comics. Voilà, donc on peut nous suivre tout au long de l'année, et on est preneur aussi des retours, les gens qui ont acheté, qui ont lu, ben, ils peuvent nous écrire via nos pages Facebook, mon adresse mail perso, voilà, donc on adore écouter ce que les gens ont à nous dire sur ce projet, et pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois, il y a eu très 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 peu de critiques négatives par rapport à ce projet.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.